Réplique, Paris sera-t-il toujours Paris, avec Benoît Dutertre et Thomas Legrand. Je précise que cette émission a été enregistrée avant que Benjamin Criveau ne se retire de la campagne des municipales. En 1977, l'historien Louis Chevalier faisait paraître un livre au titre retentissant « L'assassinat de Paris ». Cet ancien condisciple de Georges Pompidou s'en prenait notamment aux grands travaux lancés dans les années 60 et 70 pour améliorer la circulation et pour chambouler l'urbanisme de la capitale. Depuis le début des années 2000, cette politique de modernisation à outrance a été abandonnée, ou peut-être est-ce la modernité qui a muté. En tout cas, le transport n'est plus le maître en marche et le souverain devant lequel tout s'efface, la nature, l'histoire, les monuments, la morale, pour libérer le passage à son expansion, son expédition victorieuse. D'autres considérations prévalent. Les voies sur berge sont rendues aux piétons. Les circulations douces, trottinettes et bicyclettes, sont valorisées au détriment de la voiture. Les places parisiennes sont l'une après l'autre débitumées et végétalisées. Comme l'écrit Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris, la nature revient en ville. Le journaliste Thomas Legrand et l'écrivain Benoît Dutertre sont tous les deux parisiens et donc concernés au premier chef par ce changement de paradigme. Je voudrais leur demander, par conséquent, comment ça va, comment ils se sentent, et si, à leurs yeux, Paris revit. Bref, êtes-vous fiers et heureux d'habiter et de travailler dans la ville-monde, Thomas Legrand?
C'est un sentiment très partagé. D'abord, je suis plus tout à fait parisien. J'habite au Pré-Saint-Gervais, c'est une petite commune du nord-est parisien, au nord-est parisien, à 150 mètres du périph', mais je vis et travaille quand même à Paris. Et est-ce que j'y suis heureux? Oui, plutôt, parce que ça reste une ville dans laquelle finalement on peut vivre sa vie. Ce que je trouve triste, c'est que elle se dépeuple d'une population de la classe moyenne, que ça devient très compliqué d'y habiter quand on n'est pas fortuné. Il y a les problèmes, évidemment, le problème de la gentrification, le problème d'augmentation du mètre carré. Mais puisque je sais où vous voulez en venir, je suis assez heureux de l'évolution des transports à Paris. Et moi-même, j'ai un vélo électrique. En bon bobo que je suis et que je revendique d'être, même si il y a un peu d'ironie dans tout ça, j'ai un vélo électrique et je viens maintenant pour faire mon édito le matin à la radio depuis le Pré-Saint-Gervais en vélo électrique le plus souvent possible, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau évidemment. Et je traverse Paris à une heure magnifique, à une heure je suis très avantagé puisque à l'heure où je traverse Paris, il n'y a personne et je vois la beauté de Paris, la magie et la poésie de Paris.
Donc, vous vous sentez partie prenante de la grande transformation, je ne dirais pas que subit Paris, mais qui arrive à Paris depuis quelques années.
Je la comprends et je dois dire que moi qui observe la vie politique au niveau national et au niveau local, et qui observe souvent l'impuissance des politiques, c'est ce qui est reproché le plus souvent aux politiques, leur impuissance. En matière municipale, les villes changent, les grandes villes changent. Elles changent à peu près toutes dans le même sens, dans un sens qui me paraît positif. Les villes gérées par la droite ou par la gauche essayent de s'adapter aux nouveaux besoins des citadins, qui est une circulation douce. Je sais que ce mot peut paraître un peu ridicule et recèle évidemment. On peut s'en moquer facilement, mais où la circulation, ce qu'on appelle le multimodal, pouvoir prendre un peu le métro, et puis pour éviter un changement, pouvoir prendre un vélo en partage, ou pouvoir aller directement en vélo si on habite pas trop loin de son travail. Moi, je trouve que ces évolutions sont importantes parce que dans les années que vous avez citées, les années 70-80, on avait finalement organisé la ville autour de la voiture. C'est étrange que l'outil soit devenu n'était plus un outil, la voiture c'est un outil. On a organisé tout ça autour de la voiture parce qu'il y avait l'industrie de la voiture et puis on a spécialisé la ville. La ville avait des quartiers dédiés aux affaires, des quartiers dédiés au commerce, des quartiers dédiés au logement et aux services. Et cette spécialisation a introduit une nécessité de mobilité énorme. Et voilà, pour pouvoir vivre en ville, il fallait être mobile et en voiture. Et c'est devenu étouffant. Et je trouve que ce que fait la mairie de Paris depuis Delannoy, mais je pense que si Chirac avait été réélu, il aurait fait exactement la même chose, c'est pas une question de droite et de gauche, va dans le sens, finalement, de l'histoire. Je sais que vous aimez pas cette expression, sens de l'histoire, j'imagine, en tout cas, mais en tout cas, va dans le sens positif pour régler les problèmes des Parisiens, à mon avis, tels qu'ils sont maintenant. Des Parisiens et des proches banlieusards aussi.
Bien. Baudelaire disait « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel ». Vous ne diriez pas « hélas », mais un peu « tant mieux » pour ce qui est du changement actuel.
Bah, je dis « tant mieux » parce que j'ai vécu à Paris très jeune et je me souviens que toutes les places, effectivement, étaient des vastes parkings et que ceux qui disent qu'ils n'aiment plus Paris parce qu'ils ne peuvent plus s'y promener, je pense qu'ils regrettent plus leur jeunesse que le Paris tel qu'il était.
Ah, alors ça s'adresse directement à Benoît Dutertre qui vient de publier « Les dents de la mer, souffrance d'un piéton de Paris ». Alors, quelle est votre réaction,
alors,
Benoît Dutertre?
Non, mais j'entends bien tout ce qui vient d'être dit, puisque Thomas Legrand parle de ce qu'il a vécu personnellement, là où il habite et dans tout ce qu'il fait. Moi, il se trouve que j'habite aussi, alors pour le coup, au cœur de Paris, au centre de Paris, dans l'île de la Cité. Alors ça paraît toujours, quand on est dans l'île de la Cité, vous êtes un grand, très privilégié, etc. Non, mais j'habite un quartier relativement mélangé d'ailleurs, qui se trouve à la pointe est de l'île de la Cité, le long de l'Hôtel Dieu, où je vis depuis plus de 30 ans. Et en fait, si j'ai écrit ce livre en partie, eh bien, c'est parce que j'avais le sentiment qu'il y avait d'un côté un discours de la ville que j'entendais à longueur de temps et qui était d'ailleurs beaucoup repris dans les médias. Effectivement, on va créer une ville plus verte, on va créer une ville plus douce, on va lutter contre la pollution, etc. Voilà, ce sont toutes les intentions affichées par la ville. Sauf que moi, dans mon quartier, j'ai vécu quelque chose qui est complètement à l'opposé de ça, qui est vraiment très éloigné, en tout cas, de ce projet. Je peux donner d'abord des exemples très concrets. C'est que la circulation qui a été, en quelque sorte, enlevée des bois sur berge, vous avez dit d'ailleurs, on les a rendus aux Parisiens, en réalité, les berges...
Aux
piétons, les bois sur berge n'ont jamais été tellement fréquentés par les Parisiens dans l'histoire. C'était la zone, on appelait ça, c'était des très jolis endroits, mais un peu à l'abandon. Le terme « rendre » a été beaucoup utilisé par la ville, c'est à mon avis, un terme un peu fallacieux. Mais donc, toute la circulation qui a été enlevée des voies sur berge s'est retrouvée dans les quartiers adjacents. Et je peux vous dire que vécu vraiment quotidiennement au centre de Paris, c'est depuis 6 ans une espèce d'enfer. C'est-à-dire que ce soit le quai de l'Hôtel de Ville et tout le quartier environnant s'est bouché en permanence. Que ce soit de l'autre côté le boulevard Saint-Germain et le quartier environnant s'est bouché en permanence. Les petites rues, comme moi, sur l'île où j'habite, comme le quai aux Fleurs ou la rue d'Arcole, où il n'y avait jamais de circulation, maintenant sont envahis de bouchons tous les soirs parce que les gens cherchent des itinéraires secondaires, vous savez, avec leur GPS pour essayer d'échapper à cette situation. Donc, il y a peut-être un peu moins de voitures, mais quand même pas beaucoup moins de voitures, dans une surface de chaussée qui a été réduite, mais dans laquelle il faut bien que les gens passent. Donc, dans ce quartier, il y a plus de pollution, plus de bruit, parce que tous ces véhicules sont bloqués dans un embouteillage permanent qui fait que les véhicules de secours également, avec leurs sirènes, sonnent sans arrêt, donc plus de bruit. La douceur des circulations dont on a parlé, elle est également très relative, parce qu'effectivement, on y reviendra peut-être, mais y a pas, on peut quand même beaucoup développer sur le thème de l'incivilité du deux-roues, qui a pris un peu le relais de l'automobiliste d'ailleurs.
C'est-à-dire, il passe partout. Un abruti en voiture, voilà. Vous le mettez sur un vélo, c'est un abruti. dit
ça devient un abruti à vélo et c'est pas toujours très agréable.
La différence, c'est qu'il est à la tête de 14 kilos de ferraille au lieu de 3 tonnes. Donc
voilà, mais pour le piéton mieux. Que je suis, parce que moi je pense que Paris est une ville merveilleuse pour se promener à pied, pour prendre le métro, pour prendre l'autobus, pour enchaîner tout ça, le côté multimodal, ça inclut à mon avis d'abord principalement le piéton, et le piéton il souffre de cette situation, de ce bruit, de cette pollution, de l'incivilité du deux roues, et alors une autre évolution pour terminer de mon quartier, puisque vous me demandez comment j'ai vécu toute cette transformation, ça a été, je dois dire, la transformation de cette île de la Cité en complexe touristique quasiment annexe d'Euro Disney. J'ai vu la disparition de tous les derniers petits commerces de ma rue, tous remplacés par des magasins de souvenirs. Et je vois maintenant approcher avec terreur le grand plan de refonte de l'île de la Cité pour mieux accueillir les touristes. Je vois les autobus rouges qui charrient des grandes quantités de touristes d'un coin à l'autre de Paris. Donc je veux bien que la situation soit meilleure pour certains Parisiens, mais le centre de Paris, c'est beaucoup de monde. Ce sont beaucoup de quartiers qui ont souffert objectivement de tous ces travaux.
Je pense que c'est une situation, j'ose espérer, que c'est une situation transitoire. Parce que la stratégie de la mairie de Paris depuis Bertrand Delanoë, contrairement à ce qui s'est passé à Londres, c'était de réduire la place de la voiture, non pas en faisant des péages, mais en dégoûtant les automobilistes. Le but, c'était de dégoûter les automobilistes. Déjà,
c'est curieux. Une idée très perverse,
C'est terrible.
On va dégoûter l'automobiliste.
Oui, c'est terrible, mais il y a deux façons de réduire le... À partir du moment où on est d'accord sur l'idée qu'il faut réduire la voiture dans la ville, il y a deux façons. Soit vous faites un péage, et donc c'est donc une circulation censitaire, soit vous dégoûtez tout le temps en proposant une alternative. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors c'est très parisien comme débat, mais je pense que ça peut rejoindre beaucoup de nos auditeurs villes, qui sont dans des grandes villes. Si vous mettez aux abords d'une rue très passante en voiture, vous regardez à l'intérieur, il y a généralement une seule personne. Les voitures sont de plus en plus grosses et donc ça devenait absolument... Le parc automobile a doublé en plusieurs décennies, donc ça devenait absolument impossible de rester dans l'état de la voirie d'antan. Ça aurait été un immense embouteillage. Donc l'idée, c'est de réduire les places de parking, réduire la surface de la chaussée circulable en voiture pour simplement inciter les gens, ceux qui peuvent et ceux qui veulent, prendre d'autres modes de transport. Et Paris est très bien doté en transport en commun. En tout cas, pour moderniser les transports en commun, il faut déjà commencer par réduire la voiture. Je pense qu'on vit une période assez difficile.
Parce qu'elle est transitoire.
Mais qu'elle est transitoire. J'ose espérer.
Espérons-le. Mais alors, quelques remarques sur cette politique. Il faut dégoûter les automobilistes en leur proposant des alternatives. Un certain nombre de couloirs réservés aux autobus ont été transformés en pistes cyclables. Car l'alternative privilégiée, me semble-t-il, par la mairie de Paris, c'est la bicyclette ou la trottinette. Et quand vous dites, Thomas Legrand, qu'il y a des abrutis qui se conduisent à vélo comme ils se conduisent en voiture, je pense que vous manquez la spécificité de l'arrogance des cyclistes. Les cyclistes vous regardent avec morgue, avec condescendance, parce que leur empreinte carbone est parfaite. Vous dites, Benoît Dutorc, dans votre livre, que ce sont les pré-chevaliers du sauvetage de la planète. Donc, ils se permettent tout en vertu de cette supériorité écologique, donc morale, puisqu'aujourd'hui, c'est la même chose.
C'est une extrapolation.
Ah non, mais c'est ce que je vois tous les jours.
Oui, c'est ce que vous voyez tous les
c'est
jours.
C'est ce que moi, je vois dans leur comportement. C'est le bras d'honneur systématique aux piétons. Et aux voitures.
Je vois des gens,
aux taxis.
Je vois des gens qui sont à vélo et qui sont effectivement incivils. Non pas, je pense, alors c'est à moins que vous ayez fait une analyse psychologique de tous ces gens, mais parce que souvent, ce sont des gens qui sont pressés, il y a une sorte d'injonction à la mobilité, et surtout, il y a une impunité, et là vous avez raison, il y a une impunité, à mon sens, qui est simplement du fait que, d'abord, ça coûterait très cher de faire respecter cet ordre-là. Et simplement, pour l'instant, il faut inciter les gens à faire du vélo. Donc, on ne les emmerde pas, si vous voulez. Mais ils vont s'y habituer. Vous savez que avant de respecter le code de la route, il a fallu beaucoup de temps. Il y avait 17 000 morts en 1975. Il n'y en a plus que 3 000. Parce qu'on a fait, on a mis la police, on a respecté. Ils vont s'y habituer. Vous allez vous y habituer. Et vous savez, savez qu'à vélo, ça reste quand même moins dangereux, moins polluant. Et il n'y a aucune morale là-dedans. C'est quand même moins dangereux, moins polluant et moins encombrant qu'une voiture. Donc, oui. Petit à petit, je vois bien le côté ridicule qu'il y a. Pour vous moquez des gens en trottinette ou sur les espèces de
non,
de
j'ai roues, des, de j'ai roues, des amis qui circulent en trottinette et ils sont restés mes amis, vous savez.
Ouais, oui, bien sûr. J'espère bien. Mais c'est pas l'affaire Dreyfus non plus. Mais
oubliez que Paris, c'est quand même Benoît une agglomération de 10 millions d'habitants où la circulation ne peut pas se faire entièrement ou principalement à vélo. Il y a une espèce maintenant de volonté, de fanatisme du vélo que je trouve quand même un peu pesant. Il y a des tas de
personne
gens, à commencer
dit,
par moi, qui n'ont pas envie de faire de vélo. Il y a des gens âgés, il y a des femmes enceintes, etc., qui n'ont pas envie de faire de vélo. Et il y a une espèce de...
Mais déjà, si tous ceux qui peuvent et tous ceux qui veulent faisaient du vélo, oui. Eh bien, les femmes âgées, les femmes enceintes auraient beaucoup plus de place. Les taxis seraient moins chers. Ils seraient plus mobiles.
Non, mais on ne peut pas refaire toute la voirie de Paris simplement pour l'adapter à la circulation des vélos. La circulation des automobiles, c'est aussi quelque chose d'important.
Les bus vont plus vite qu'avant.
Excusez-moi, les embouteillages sur les quais de la Seine, ça existe. Et alors moi, une chose qui me frappe, c'est que je pense que justement, le boulevard haussmannien, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, d'ailleurs, qui a été parfois critiqué pour des raisons politiques ou autres, mais il avait réussi à aérer la ville avec une espèce de vision extraordinaire de ce qu'allait être le 20e siècle. Il a créé ces grandes artères qui facilitent la circulation et qui se sont adaptées d'une façon étonnante à la circulation automobile jusqu'au moment où effectivement il y a eu trop d'automobiles. Mais on n'est pas obligé.
Haussmann n'avait pas pensé à l'automobile.
On n'est pas obligé aujourd'hui de détruire la structure même de ces boulevards, de les briser en ajoutant quantité de couloirs, de murets, de complications et à transformer cette ville fluide en une espèce de chose impénétrable et impraticable.
C'est dangereux parce
que on ne sait plus jamais de quel côté arrive le cycliste, de quel côté arrive l'autobus.
Il m'arrive de traverser le boulevard Montparnasse, l'exemple type du ratage total avec le
c'est-à-dire que voilà, ça traverse le boulevard Montparnasse de temps en temps au péril de ma vie.
On pouvait ajouter quelques pistes cyclables et d'ailleurs Tibéri avait commencé à le faire avant de la Noé Hidalgo. On pouvait ajouter quelques pistes cyclables. On n'est pas obligé de bouleverser toute la circulation parisienne. Il y a par exemple, pas très loin d'ici, quai de New York, carrément, le trottoir a été divisé en deux. Et la moitié du trottoir, mais sans séparation, est réservée aux cyclistes. Et les piétons doivent se serrer dans un petit espace entre le quai et les cyclistes et faire toujours attention de ne pas déborder sur l'autre zone.
Donc c'est danger, terrible. Le danger est politique et physique. Et maintenant, le vélo, cet objet de 14 kilos qui permet, sans faire de bruit et sans polluer, d'aller à un point A à un point B et qui personne n'est obligé de faire du vélo.
Raka voulait me casser la gueule au jour parce que je lui faisais une remarque.
Oui, mais il faut faire la police et il faut que les vélocistes s'arrêtent au feu rouge.
Je voudrais juste ajouter une petite chose parce que vous parliez de la réglementation des vélos et à mon avis il y a aussi un autre problème parce que la ville ayant tout misé sur le fait on va dégoûter les automobilistes, on va limiter la circulation, la ville a également d'une certaine façon cessé de réglementer, de contrôler le détail de la circulation, ce qui aurait permis beaucoup plus de fluidité. Je m'explique, par exemple les couloirs, les fameux couloirs qui permettent aux bus et aux taxis de circuler, le stationnement, etc. Toutes ces choses-là, autrefois, étaient contrôlées sur le terrain par des contractuels qui faisaient en sorte que les choses ne soient pas complètement bouchées tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de réglementation concrète et humaine de la circulation dans les rues puisque tout passe par des caméras qui envoient directement des contraventions aux contrevenants. Oui. Et donc, la ville est abandonnée comme ça à une espèce de loi du plus fort où chacun fait ce qu'il veut, personne ne respecte rien, à commencer par les cyclistes, mais aussi ceux qui se gardent dans les couloirs de stationnement.
Avec vous, il n'y a personne
qui s'occupe au fond de faire en sorte que la ville telle qu'elle est et qui pourrait être fluide le soit réellement parce que chacun commencerait par respecter les bonnes règles de circulation et de stationnement.
Je voudrais vous lire un petit passage, je ne sais pas si vous connaissez Maxime Ducamp, c'était un journaliste.
Un ami de Flaubert.
Et alors Maxime Ducamp, comme vous savez, a écrit 6 volumes d'une grande enquête sur Paris et sur la vie parisienne, tous ses aspects, dont la circulation. Ouais. Et il écrit ceci, à la fin du 19e donc, il est difficile de s'imaginer que Paris ait pu manquer de voitures car certains boulevards, certaines rues sont tellement encombrées par des véhicules de toutes sortes, on croirait que c'est aujourd'hui, des véhicules de toutes sortes, qu'il est parfois imprudent et souvent dangereux d'essayer de traverser. On dirait Alain nous parlant du Finkielkraut, nous parlant du boulevard Montparnasse. Donc ça a toujours été comme ça.
Ah,
et,
non.
Et alors, aussi, ça a toujours été comme ça, mais simplement.
C'était pas des autoroutes quand même. Il parlait pas d'autoroute. Le boulevard Montparnasse est devenu une autoroute.
Mais le boulevard Montparnasse.
Et en plus.
Oui. Avant, c'était beaucoup plus des autoroutes. D'ailleurs, on pouvait plus traverser. Les grands boulevards, ce qu'on appelle les grands boulevards, étaient absolument intraversables. Maintenant, ils le sont pas beaucoup plus. Mais Paris a toujours été comme ça. Et alors, Maxime Ducamp. Prévoit qu'il va y avoir des chaises à porteurs et qu'on pourra comme ça déposer sa chaise à porteurs ou faire déposer sa chaise à porteurs. Il prévoit le Vélib et il a peur du Vélib. Voilà. Donc en fait ça a toujours été comme ça. Paris c'est un peu le bordel et c'est pour ça que c'est bien. C'est vie, c'est la vie.
Oui, mais
et alors
un bordel qui est produit par la vie, il y a un bordel qui peut être produit par la politique. Que l'on mène à marche forcée.
Je pense que c'est un ordre qui est en train de s'installer.
Et vous
allez voir que si les vélocipédistes sont finalement réprimandés quand ils ne brûlent pas le feu rouge, c'est pas encore le cas, ça devrait l'être et j'espère que ça le sera. Et en même temps, vous apprendrez à regarder et à gauche et à droite rue de Rivoli, c'est vrai que rue de Rivoli ça ne roulait que dans un sens, mais maintenant avec les vélos ça roule dans les deux sens. Et moi, je trouve ça magnifique de pouvoir prendre la rue de Rivoli pour la première fois de ma vie. C'est très parisien, ce que je dis. Dans le sens inverse, j'ai l'impression de faire une transgression.
Mais justement,
énorme,
il y a une sorte d'ivresse des cyclistes parce qu'ils peuvent prendre à peu près toutes les rues dans les deux sens.
Comme les piétons.
Comme les piétons, oui, justement. Mais alors, une chose. Je cite Benoît Dutertre. Aujourd'hui, on rêve de transformer la capitale française en ville d'Europe du Nord, sillonnée par les deux roues et offrant une gamme de supermarchés bienveillants. Peut-être que c'est notre destin, mais surtout, j'ai une objection à faire au nom des seniors, comme on dit, des vieilles personnes. Parce que les vieilles personnes, elles hésitent à faire de la trottinette, même quand leurs amis les y engagent, et le vélo, en Provence, d'accord, à Paris, pas vraiment.
C'est donc pas pour tout le monde.
Mais oui, moi j'ai l'impression qu'il flotte sur les villes aujourd'hui une espèce de, je vais exagérer Thomas Legrand, mais une sorte de parfum d'euthanasie. C'est-à-dire les vieux n'ont pas leur place, ils sont pas chez eux. Donc voilà. Et c'est, la ville n'est
la
pas
ville
pour eux. Elle
n'est
pas pour les classes moyennes, mais elle n'est pas vraiment non plus.
On
n'a
jamais
pour
autant piétonisé de rue. C'est pas pour les vieux, on les appelait les vieux,
ben
mais
oui,
pas dans
les
missions. Bah oui, pas encore, mais
la rue piétonne, ça a jamais été un idéal non plus. C'est la galerie marchande,
non,
la rue piétonne. La vraie rue, c'est une rue, il y a des voitures, il y a quelques vélos, il y a des piétons, et tout le monde arrive à circuler.
Je pense pas que les Parisiens rêvent de galeries marchandes ou de supermarchés. D'ailleurs, c'est plutôt interdit à Paris. Et la tendance, tous les candidats de droite ou de gauche parlent de vélo. Personne, il n'y a plus aucun candidat qui dit qu'il faut rendre au véhicule, cette fois-ci on peut utiliser le verbe rendre au véhicule les quais. Et pourtant quel scandale quand Bertrand Delanoë a d'abord fermé les quais rive gauche.
C'est Jean Tibéri qui l'a fait le premier. Delanoë a repris et étendu la mesure.
Il l'a largement étendu.
Mais voilà. Les quais sont devenus ce qu'Anne Hidalgo appelle une autoroute citoyenne, vous savez.
Non, mais évidemment, c'est pas parce que les mots sont ridicules.
C'est pas vraiment l'endroit où on déambule. Avec
c'est
plaisir,
pas...
où on se
si
laisse aller, où on se pose au bord de l'eau. C'est
les
une
quais,
circulation dans
les
tous
quais.
Les sens.
Mais oui, vous pouvez déambuler sur les quais.
Il faut... L'autoroute citoyenne,
vous
elle
trouvez
a très bien
que les mots
la
sont ridicules
formule.
Et vous avez raison, l'autoroute citoyenne, il n'y a pas de plus ridicule. Mais c'est mieux de déambuler sur les quais aujourd'hui qu'il y a trois
alors,
ans.
Écoutez les bouquinistes. Hein. On ne déambule plus sur les quais. Ils souffrent beaucoup.
Non,
je parlais
des quais en bas, pas les quais.
Les quais en bas, c'est l'autoroute citoyenne. En haut, ce sont les bouquinistes qui, effectivement, vivent maintenant dans une pollution renforcée puisque toute la circulation est remontée en
donc
haut.
Donc vous voulez qu'on interdise les voitures en haut et vous avez bien raison. Et
c'est ce non,
qui va
je pense qu'on aurait
arriver.
Dû laisser les voitures en bas surtout.
Mais il y en aurait eu en haut et en
parce
bas.
Parce que les quais de la Seine ont toujours été un lieu de promenade, un des beaux lieux de Paris, le lieu où s'alignent les monuments, le lieu où s'alignent les bouquinistes. C'était un endroit où il y avait un grand plaisir à se promener, par exemple le samedi ou le dimanche, que je faisais souvent dans mon quartier. Or, dorénavant, le samedi ou le dimanche, ces quais sont embouteillés exactement comme les jours de la semaine.
C'est une transition.
La transition, vous en avez parlé. La transition, ça fait exactement exactement 6 ans que moi, je souffre de cette situation, que les chantiers se multiplient partout, que ça ne s'arrête jamais. 6 ans, c'est beaucoup dans une vie, d'autant plus que la maire de Paris a annoncé récemment, dans le cadre de la campagne électorale, qu'il en faudrait encore au moins 6 ans pour arriver à ces projets. Donc tout ça,
combien
ça fait 12 ans.
À Haussmann 12
ans
dans une vie.
Oui, mais moi, je pense 12 ans de ma vie,
oui,
peut-être
pensez...
que vous pourrez comparer
vous
à Haussmann, c'est beaucoup
la chance
de souffrance parisienne.
Un endroit exceptionnel, c'est vrai qu'il y a des, il y a,
d'autre
il y a des
part,
contraintes.
Vous oubliez encore une autre chose, c'est que Paris, c'est une agglomération de 10 millions d'habitants, c'est la capitale de la France, c'est pas seulement la zone de déambulation agréable de ceux qui habitent Paris ou sa très proche banlieue comme vous. Le banlieusard, il a besoin aussi d'aller à Paris, il a le droit de profiter de l'Opéra de Paris, des spectacles, etc. Sa
Alors,
situation
c'est...
est devenue extrêmement pénible. Ils s'en sont plaints énormément de cette situation. On les a mis devant le fait accompli et c'est pas non plus très très bien.
Paris devrait... Le banlieusard, il vient à 90% à Paris en transport en commun. Et s'il pouvait arriver, une fois qu'il arrive, il vient pas en voiture.
Oui,
parce que
quand,
soit
quand
il a pas de voiture.
Les transports en commun marchent quand ils sont, voilà.
Le RER,
non, mais attendez, il y a
déjà
un tas de problèmes quand même dans les transports.
Demander à réparer le RER plutôt que de demander à le remplacer par des voitures, c'est quand même assez incroyable. Et le banlieusard, quand il arrive à Paris, soit il prend le métro, soit il prend le, il peut prendre un vélo en partage. Et voilà. Et s'il ne peut pas parce que il est vieux ou enceinte, eh bien, il prend un taxi ou le métro et ça coûte, le taxi coûtera moins cher parce que parce qu'il y aura plus de voitures particulières. Voilà, le taxi.
Alors, tout à fait d'accord, Thomas Legrand.
Mais j'en étais
cette
sûr,
politique.
Alors.
Oui, oui. Nous tombons toujours d'accord au bout du coup.
Oui.
Mais, cette politique, qui vise à décourager, voire à dégoûter les automobilistes, comment expliquez-vous qu'elle ne s'applique pas du tout au bus impérial, au tour opérateur. Parce que à Rome, ils ne sont pas les bienvenus. À Paris, ils le sont. On les voit partout, devant le Louvre, etc. Ils contribuent aux embarras de Paris. Et il ne semble pas qu'étant donné la politique touristique menée aujourd'hui par la mairie, on pense à les décourager. Alors, seriez-vous pour que, justement, les touristes étrangers viennent par leurs propres moyens, prennent les transports en commun et se déplacent autrement que dans ces énormes autobus?
C'est monstrueux, ces autobus qui sont des espèces d'énormes tubes qui encombrent les villes et qui les encombrent d'autant plus que la ville est réaménagée comme vous l'avez décrit. Et moi, je suis pour ce réaménagement, je suis pour même qu'il soit poursuivi et amplifié, mais il devient impraticable si ces bus continuent à être là.
Mais ils n'ont fait qu'augmenter depuis 6 ans.
Je sais bien, il y a pas mal de candidats à la mairie de Paris, on va pas rentrer là-dedans, qui proposent de les enlever. Je crois qu'Anne Hidalgo en avait parlé à un moment. Je pense que les enjeux financiers et économiques, malheureusement, l'en empêchent. Elle n'a pas le courage de faire ça. Mais il y aurait des tas de moyens avec des petits transports électriques où on pourrait trimballer le tour. Mais il faut savoir que les centres-villes, et Paris est une ville très petite en fait, les centres-villes du monde entier, en tout cas des villes qui sont visitées, sont envahies par le tourisme de masse. Et le tourisme de masse est une plaie, on le voit à Venise, on le voit partout, est une plaie. Le dire ici, c'est pas très démocratique, mais c'est une plaie. Et
Cette augmentation faisait partie des options, des choix de la ville au cours des dernières années.
Des mauvais
J'ajoute
choix.
Que ces autobus, parce que pour aller un peu au-delà simplement de la question des embarras et de la circulation, ces autobus qui ont souvent des noms anglais, des couleurs de marque, ils contribuent à un autre phénomène qui pour moi renvoie vraiment, dégrade un certain aspect de la vie parisienne, c'est la multiplication partout dans cette ville de l'affichage des marques. Et tout ça va ensemble, parce que si vous prenez par exemple la circulation avec les vélos en libre-service, la circulation de trottinettes, la circulation des bus de tourisme, etc., et aussi d'ailleurs la transformation du commerce parisien, partout ce sont maintenant des logos, des couleurs, des marques qui s'affichent, qui se multiplient dans la ville, et qui donnent vraiment l'impression d'être dans une espèce comme ça de supermarché, des franchises et des grandes marques.
Les stades,
et alors également
plus Léo
le petit
Lagrange,
le petit
Arena,
le petit commerce AXA. Parisien de la même façon est en train de disparaître pour être haché par des chaînes de restauration rapide, des chaînes d'épicerie, etc. Et on n'a plus dans cette ville maintenant que l'impression de déambuler dans une galerie commerciale où on va s'aligner exactement toutes les marques qui finalement n'ont pas grand chose à voir quand même avec ce que peut être la poésie de Paris.
Dans votre livre, Benoît Dutertre, vous imaginez un nouveau maire de Paris qui applique un programme
un peu loufoque,
un programme tout à fait singulier en tout cas, parce qu'il n'est repris par aucun des candidats aux prochaines élections municipales. Et vous parlez de règles qui proscrivent les noms anglais et imposent d'afficher le genre du magasin, genre au sens traditionnel du terme, avant sa marque commerciale. Fini les McDonald's, Carrefour Bio et autres KFC, remplacés par des enseignes de bazar, épicerie ou café, sur lesquels les commerçants inscrivent à nouveau leur patronyme. On peut le souhaiter,
surtout un bobo. Qui est-ce
Thomas
qui...
Mais
bien sûr. Qui est-ce qui lutte contre les marques, les chaînes et la standardisation?
Pas la ville de Paris, en tout cas.
Peut-être pas la ville de Paris, mais les fameux bobos que je défends ici avec plaisir,
mais
parce
oui.
que c'est vous.
Et
que
avec
peux,
éloquence.
Et, avec, et que je peux critiquer ailleurs, parce que c'est pas vous, mais quand c'est vous, je les défends. Et évidemment, qui est-ce qui parle de relocalisation? Qui est-ce qui essaye de trouver, de façon parfois ridicule, des légumes anciens? Qui est-ce qui essaye même de faire pousser des légumes dans le cœur des villes? Et qui est-ce qui essaye de faire des jardins partagés? Qui a inventé la bistronomie, si ce n'est les bobos? Voilà, Sébastien Demorand, en l'occurrence.
Alors, étiez-vous heureux lorsque vous avez appris que les Jeux Olympiques de 2024 allaient se dérouler à Paris, et lorsqu'Anne Hidalgo a dit que la cathédrale de Paris, Notre-Dame, serait prête pour les Jeux Olympiques, et que toutes sortes de travaux vont être faits pour accueillir tous les visiteurs, tous les touristes qui vont envahir la capitale à ce moment-là pour son plus grand bien économique.
Alors, la deuxième partie, non, ça m'a, je trouve ça assez pitoyable. Je pense que la cathédrale de Paris, on a tous été bouleversés. Et il faut qu'elle soit restaurée et il faut que ça prenne le temps que ça doit prendre. On a le temps. Et donc, donner un impératif touristique comme objectif pour restaurer la cathédrale de Paris, ça me paraît hallucinant. Mais bon.
Benoît Dutour.
Moi, ce qui me frappe beaucoup dans Paris, et je dirais y compris d'ailleurs quand je reviens de voyage, ou par exemple si l'avion tourne un peu au-dessus de Paris, que le ciel est dégagé, c'est l'extraordinaire cohérence de cette ville, cette beauté qui est l'œuvre du 19e siècle, principalement, d'avoir unifié la ville et d'avoir justement ces choses très belles qui sont la ligne des boulevards, la ligne de la Seine, et puis ces gares, ces cinq gares comme ça qui donnent vers toute la France et qui font partie,
et
sont une partie intégrante de l'architecture de la ville, effectivement également avec toutes les brasseries et tout ce qu'il y a autour d'une gare. Donc vraiment, je trouve que de la part d'un candidat à la mairie de Paris de vouloir supprimer une gare, c'est toujours pour faire un truc que plus ou moins comme les Américains, comme les autres, hein. Un Central Park à la française, des potagers urbains comme on fait à Los Angeles, etc.
Non, comme on fait partout.
On voit pas pourquoi. Enfin, c'était le langage de la ville de Paris, etc. Oui. À un certain nombre de reprises. Et donc voilà, ça n'a à mon avis aucun sens. Il faut d'ailleurs ajouter que, pour être tout à fait équitable, que Cédric Villani, quant à lui, veut transférer la gare du Nord à Saint-Denis. Donc c'est à peu près le même genre de projet dément, de grands travaux abominables qui n'apporteront rien, alors, évidemment, à la ville de Paris.
Autre question qui m'est inspirée par ce passage de votre livre, Benoît Dutert, où vous dites que le parvis de la mairie a été transformé en centre d'animation permanent.
Ça, c'est vrai,
avec toutes sortes d'activités festives qui font beaucoup de bruit.
Philippe Muret sort de ce corps.
Voilà. C'est, bah oui, parce que Philippe Muret a parlé
il
de
avait
tout
vu
ça.
Des choses.
Il avait dit des choses, il a parlé du monde hyper festif dans lequel nous sommes entrés. Il a dit que la fête, dans le monde hyper festif, la fête n'est plus en opposition, en contradiction avec la vie quotidienne. Elle devient le quotidien même, tout le quotidien, et rien que le quotidien. Et donc il dit, la ville moderne est une fête. Il ne s'agit pas simplement de Paris. Alors, une fête donc, et la politique de la ville va dans ce sens. Alors ça, c'est une question que je vous pose, Thomas Legrand. Le bobo se reconnaît-il dans Homo Festivus? Ou bien le bobo est-il un adversaire d'Homo Festivus? Ou bien le bobo pense-t-il qu'Homo Festivus est une création caricaturale qui ne vise qu'à délégitimer, disqualifier le bobo?
Ce qui est pratique avec le mot bobo, c'est que comme les universitaires ne le supportent pas, n'ont jamais voulu le définir. Mais bon, on l'utilise tout le temps et chacun sait de quoi on parle quand on
Absolument.
Parle.
Absolument. Vous avez raison de dire que ça existe.
Le pudding existe parce qu'on en mange,
le bobo
parce qu'on en parle. Voilà. C'est Hegel, pour paraphraser Hegel. Mais.
Engels,
oui. La fête
permanente, la fête organisée, oui. La technoparade, la gay pride, les jeux gays, etc.
Je vois bien ce qui vous énerve.
Mais non, moi je sais pas.
Je vois bien ce qui.
La fête de la musique.
Oui, bah la fête de la musique. Il y a des gens qui vont faire de la musique dans la rue. C'est pas toujours très agréable pour les vrais mélomanes. Ça amuse beaucoup de gens. Ça fait rencontrer des gens. Je vais ici développer un discours qui vous exaspère, mais qui n'est pas faux non plus. Il y a des gens qui se rencontrent et qui font de la musique ensemble. Qu'est-ce que je vous dis? Franchement, je garde ma capacité d'indignation
pour
autre chose. Alors que le parvis de l'hôtel de ville abrite chaque Noël une patinoire.
Non, c'est fini ça.
C'est fini.
Alors, moi, j'habite près de l'hôtel de ville. Alors, je peux vous dire, c'est pas qu'il abrite chaque Noël une patinoire.
En fait, vous nous parlez de vos nuisances de voisinage.
Vous avez fait un livre sur vos nuisances. J'ai fait un livre sur la vie d'un Parisien et la transformation de cette vie depuis 20 ans. Vous allez me dire que mon quartier ne représente rien, c'est très gentil à vous.
Mais
je suis un citoyen comme les autres.
Vous avez la malchance d'habiter au cœur.
Vous dites la malchance.
Puisque vous avez l'air d'en souffrir énormément. Au cœur de la ville qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde passe devant
chez vous.
Beaucoup
de gens habitent autour de l'hôtel de ville et souffrent également de ce qui se passe à l'hôtel de ville. C'est-à-dire que c'est une parade permanente de fêtes. C'est pas du tout la patinoire de Noël. C'est tous les mois, il y a une nouvelle animation. Il y a la fête de l'Europe, il y a la fête de l'eau, il y a la fête de l'air. Il y a des rassemblements sportifs le dimanche matin de Run My City avec tous ces gens qui partent avec des tambours découvrir la ville.
Vous auriez préféré qu'on appelle ça Cours ma ville.
Ça veut rien dire, justement. Oui. C'est pour ça que je me moque de ça dans le livre.
Oui,
Donc voilà, il y a sans arrêt une animation, et c'est vrai que c'est une tendance un petit peu excessive, à mon avis. Tendance excessive du pouvoir municipal à Paris ou ailleurs de vouloir se transformer en un organisateur permanent d'événements de masse, d'événements d'extérieur, etc. Moi, je dis que la ville, au fond, c'est quoi la responsabilité d'une ville? C'est de rendre la vie des habitants agréable, de leur permettre de circuler, de leur permettre d'accéder à des endroits où ils vont pouvoir aller voir des spectacles ou faire la fête. Ça n'est pas de sauver la planète, d'organiser sans arrêt des fêtes et des défilés collectifs. Ça, ce sont des nouvelles missions que s'est attribuée la ville et qui, moi, me paraissent pas relever de la modeste responsabilité d'une équipe municipale.
Vous parlez d'ailleurs de Paris comme d'une ville propagande, Benoît.
Oui, c'est l'expression.
Les fêtes, en effet, sont toujours bien orientées.
L'hôtel de ville lui-même s'est transformé en espèce d'affichage permanent de la liste des féminicides, des prisonniers politiques d'opinion dans le monde. Et on dirait que la ville, comme ça, veut toujours communiquer sur la vertu.
Non, non, la vertu. Le bobo que je défends ici dans un environnement hostile. Et donc.
Mais très amical.
Mais bien sûr.
C'est pas le rôle de la ville d'aller. C'est très. Évidemment, il faut dénoncer les prisonniers d'opinion dans le monde. Mais est-ce que c'est le rôle de la ville d'afficher sans arrêt qu'elle y pense et qu'elle ne pense qu'à ça et d'éclairer la tour Eiffel pour nous le rappeler à l'occasion, etc. Je trouve ça va un peu au-delà de ce que moi j'attends simplement du maire de Paris ou d'une autre ville.
J'ai pas grand-chose à y répondre, sauf que j'ai du mal à me scandaliser, pour ça. Voilà, c'est la fameuse bien-pensance, c'est-à-dire promouvoir plutôt l'antiracisme.
C'est une autre
l'amitié
façon.
Entre les peuples, tout ça, c'est peut-être pas la ville de le promouvoir.
Regardez, la ville propagande, c'est par exemple encore une autre chose. À un moment donné, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, quelques semaines, un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion, près de chez moi toujours, puisque je vous parle de mon quartier, bloque entièrement le Châtelet, le pont au Change, etc. pendant plusieurs jours, ce qui met les habitants du quartier dans une situation extrêmement désagréable. J'ai assisté à des scènes assez limites de la violence entre des résidents qui ne pouvaient plus circuler, qui ne pouvaient plus bouger, qui avaient besoin de leur voiture ou d'autres choses.
Hein. Moi, j'y suis passé, il fallait effectivement faire le tour de la place.
C'était
un cauchemar.
Ce qui me fascine, c'est... Non, il y a des gens qui habitent, qui travaillent dans des rues qui étaient inaccessibles. Et la ville, au lieu de faire en sorte que les Parisiens puissent circuler et de demander à ce mouvement de dégager, la maire de Paris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle trouve ça formidable, elle encourage le mouvement, elle applaudit à deux mains, d'une certaine façon, une bonne cause contre la vie quotidienne des Parisiens de ce quartier.
C'est quand même c'est-à-dire qu'elle fait une hiérarchie entre la vie quotidienne des Parisiens de ce quartier qui était un petit peu gênée, effectivement.
Elle veut sauver la planète. Elle veut pas que les Parisiens vivent agréablement.
Et une jeunesse me fait l'avocat du diable parce que ça m'amuse en plus. Et une certaine jeunesse qui décide, telle votre amie Greta Thunberg, qui décide qu'il faut militer pour une cause qui ne dépasse
pas. On n'est pas au courant qu'il y a des problèmes dans la planète.
Si,
on a
mais
besoin
comme cette
de
jeunesse a l'impression qu'on ne fait rien, elle se bouge un peu. C'est et c'est la jeunesse, alors elle est emmerdante, la jeunesse. Oui,
mais c'est la réaction de la ville qui me choque, moi. C'est pas la manifestation de la jeunesse.
Non, mais simplement, alors peut-être que ça va vous sortir de vos gonds, Thomas Legrand, parce que vous prenez tout ça avec une certaine équanimité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut rappeler que le fondateur anglais d'Extinction Rébellion nous a expliqué que la Shoah, c'était juste une connerie. Et il l'a dit. Donc, ce mouvement, on ne peut pas lui faire totalement confiance. Et je répète que l'écologie est une cause trop importante pour être confiée justement aux enfants et aux adolescents.
Mais si elle était confiée qu'à eux, ça serait très embêtant. Ouais.
Oui, mais c'est pas à eux à faire la loi, ni à faire la grève des cours.
Vous êtes d'une génération qui peut-être pas vous directement, mais vous êtes d'une génération qui était maoïste, trotskiste, qui a mis son mouchoir sur des tas d'horreurs. Et là, il y a une génération qui se lève en disant tiens, les scientifiques, la rationalité. Développent un consensus pour dire qu'il y a un problème, on vous demande de le traiter, alors ils le font à leur manière de jeunes. Ils ont bloqué la place du Châtelet. C'est absolument scandaleux.
Mais on les a pas dégagés, c'est ça
qui est scandaleux. On les a pas dégagés, on a été très laxistes. Bon, excusez-moi de faire du relativisme, mais je n'arrive pas à rentrer dans ces chaussons d'indignation, si vous voulez.
C'est pas les chaussons d'indignation. Les scientifiques ne sont pas seuls à nous dire quelque chose sur le destin de la Terre. D'abord, parlons de la Terre et non pas de la planète. Ça nous fera redescendre un peu. C'est très important. Il y a une question écologique centrale qui est la beauté du monde, et la beauté n'est pas quantifiable. Donc, sur la beauté, les écologistes, les scientifiques écologiques n'ont rien à nous dire, et ceux des jeunes qui nous demandent de les écouter ne voit aucun inconvénient à la prolifération des éoliennes qui ne sont pas la seule cause de laideur, mais qui participent à la laideur généralisée.
Les mouvements écologistes luttent contre les éoliennes n'importe où, mais ils en veulent effectivement dans certains endroits où c'est possible. Et puis certains n'ont pas les mêmes goûts que vous et peuvent trouver une certaine grâce au mouvement éolien.
J'aimerais pas tout à fait mon cas, mais Benoît Dutrieu, que la ville de Paris, au lieu d'avoir toujours
on est loin, il y a pas d'éoliennes à la ville de Paris.
Au lieu d'avoir toujours des grands projets écologistes, par exemple, se charge d'entretenir avec plus de soin et d'amour tout ce qu'il y a à Paris de charmant, de vert, d'écologiste, à commencer par les squares, les jardins publics qui sont souvent dans un état d'abandon très grand. Il y a encore dans l'île de la Cité, puisque je parle de mon quartier, un merveilleux endroit qui s'appelle le marché aux fleurs et qui est vraiment le petit îlot de verdure et de poésie au cœur de Paris. La ville de Paris, avec l'État, d'ailleurs ça a commencé au temps de François Hollande, mais c'est toujours dans les cartons, a un projet qui est de refaire complètement ce marché aux fleurs, de le recouvrir d'une grande cloche de verre pour y développer des animations, pour y accueillir les touristes du quartier. Est-ce que c'est pas une mesure, alors très concrètement sur le terrain, qui est anti-écologique, alors qu'il faudrait commencer par prendre soin au fond de ce merveilleux patrimoine parisien, qui est une ville où il y a beaucoup d'arbres, où il y a beaucoup de squares, qui est peut-être une ville très dense.
Et au même moment, dans ce même quartier,
l'Hôtel Dieu, qui est le plus vieil hôpital de Paris, se voit concédé pour un tiers au privé, toute la partie qui donne sur le parvis de Notre-Dame, donc qui est accessible plus facilement aux touristes, pour y développer des commerces et un certain nombre d'activités sur le tourisme. Et qu'est-ce que la ville, avec, enfin en l'occurrence l'assistance publique des hôpitaux de Paris, avec la ville, a décidé? Par contre, comme ils ne veulent pas vraiment fermer l'Hôtel Dieu, parce que c'est un enjeu un peu symbolique, ce service d'urgence au cœur de Paris, on va reconstruire des bâtiments dans les cours de l'Hôtel Dieu, qui était à peu près une des seules aérations du quartier, où on aurait aurait pu effectivement simplement entretenir les arbres et garder des jardins publics. Donc on concède au privé un tiers d'un vieil hôpital et on rebâtit des bâtiments pour densifier un quartier qui est déjà très dense et très minéral à l'intérieur des cours de l'hôpital. Voilà le genre de choses très concrètes voilà, qui se produisent tout le temps et qui moi, voilà, effectivement,
mais
je ne dirais pas
m'indigne. Mais sur ce dossier que je ne connais pas très bien, je suis d'accord avec vous, on pourrait parler de ce qui se passe aussi à la Gare du Nord.
Voilà.
La Gare
mais du c'est Nord pour parler des contradictions des de ce discours qui s'affiche toujours, le vert, la douceur, la respiration, le sauvetage, mais, et qui en réalité se contente de grands projets, de grandes opérations, mais qui sur le terrain, très concrètement, n'est pas toujours aussi bien que ça.
Moi, je prends ce qu'il y a à prendre sur la circulation douce, pour prendre cet horrible mot, eh bien, je trouve que c'est un progrès, et surtout ce qui est concession au privé et marchandisation de tout, de la Gare du Nord, du marché aux fleurs, si c'est le cas, c'est très triste.
Mais tout ça se fait ensemble.
Pas forcément.
Parallèlement.
Les écologistes ne sont pas dans ce...
Ouais, alors, justement, que pensez-vous de l'abandon de l'entretien du patrimoine aux enseignes de luxe dont les affichages publicitaires géants engloutissent les monuments pendant la durée des travaux? Ça, on le voit tout le temps.
Bah oui,
ça doit vous choquer, ça.
Oui, ça me choque.
Bon, très bien. Ouais. Alors, nous sommes tous d'accord. Alors maintenant, je m'adresse au futur maire de Paris, Benoît Duterte. Vous annoncez votre candidature. Après cette émission fulgurante, vous allez être élu. Quelles seront les premières mesures que vous allez prendre? On a déjà parlé des enseignes, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
Alors, je rouvrirai la voie Georges Pompidou. Ça, c'est juste pour faire...
aux voitures.
Bien sûr, aux voitures. Mais pas les autres voies sur berge, parce que il y a beaucoup d'endroits agréables pour se promener à Paris. Il y en avait d'ailleurs déjà beaucoup avant la fermeture des voies sur berge. Celles de la rive gauche, à mon avis, sont pas forcément indispensables pour les automobiles. Mais donc, la rive droite, du coup, redeviendra un peu moins encombrée. Et par contre, ça permettra de réduire un petit peu la circulation sur ces merveilleux quais hauts où se trouvent les bouquinistes et où il est si agréable de se promener.
Pas du tout, parce que si vous rouvrez ou rendez les voies sur berge aux voitures, ça fait venir des voitures. C'est ce principe, vous savez, une artère. L'artère, c'est pour ça que ça s'appelle une artère.
Oui,
ça fait venir du sang,
principe
venir
de cette
des
voie,
voitures. Et donc, ça va faire monter les voitures dans... Mais si, parce qu'il y a de plus en plus de voitures. Si ça a été fait, c'est pour... Parce que tout le monde a une voiture maintenant, et même deux, le parc automobile a triplé. Donc, en ouvrant une artère, vous alimentez le centre de voitures de Paris de voitures. Voilà ce que vous allez faire.
Non, je permets la circulation et je dégage.
Ça a été étudié par plein de gens.
Je suis désolé, dès l'instant.
Et tous les candidats de droite et de gauche savent ça. Et d'ailleurs, personne ne propose cette mesure-là.
Mais oui, mais c'est lui qui va être élu. Oui, alors, écoutez-le. Voilà, Benoît Duterte.
Voilà, oui. Ben, en tout cas, je n'encourage pas systématiquement le vélo partout. Je fais en sorte que les transports en commun fonctionnent effectivement en permanence et de façon beaucoup plus agréable.
Et pas toutes les 15 minutes, par exemple.
Je rétablis le contrôle surtout du stationnement, des voies sur berge, les usages des fameuses circulations douces sur les trottoirs, etc. Je fais en sorte qu'il y ait ce qu'on appelait autrefois des contractuels, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de ce que la vie parisienne soit simplement civile et que ce ne soit pas simplement des boîtes privées qui relèvent les assurances. Et je finis le livre comme ça. En fait, je reconstruis en quelque sorte, avec une sorte de nostalgie, effectivement, une espèce de Paris imaginaire de ma jeunesse.
Oui, alors, mais attention, il y a des mesures très dissuasives et même répressives. Si un autocar de tour opérateur se croit bienvenu en ville, vous lui dites c'est interdit, demi-tour immédiatement, regagnez vos parkings, sinon c'est 1000 euros à payer sur le champ. Et puis, vous n'osez pas le dire, mais ce sera une de vos mesures les plus spectaculaires. Pas tout à fait festives, mais spectaculaires. Elle est très intéressante. Vous allez procéder le dernier dimanche de chaque mois au supplice de la fessée.
C'est quand même pas...
C'est pas en place de grève.
En place de grève.
J'ai voulu redonner la fessée.
C'est pas Damien.
C'est pas on n'écartèle pas Damien.
Non, c'est pas Damien. Mais c'est un supplice de la fessée infligé aux tagueurs de monuments contre lesquels vous allez exercer une traque sans relâche. Je ne vois pas comment vous pourriez ne pas être élu avec cette proposition-là.
C'est le chapitre de la fin du livre. Effectivement, mais j'ai voulu que la place de grève retrouve sa fonction punitive, mais d'une façon relativement douce quand même. Oui. Mais oui, les taggers, oui, ils méritent bien ça quand même, hein, d'être...
Le street art, ça vous...
Non, ça vous... Et vous trouvez que c'est du street art dans Paris?
Mais ça dépend, il y a des endroits, alors là,
Je vois Alain qui s'étrangle.
Non,
il y a des,
non,
il y a des...
Ah non, non justement, vrai, les bâtiments du marché aux fleurs, les immeubles du bord des deux îles sont tagués quasiment tous les jours. Voilà. Et quand on retire, c'est retagué le lendemain.
Moi qui habite le Quart Nord-Est, je trouve il y a des endroits où il y a de vraies fresques. Voilà.
Et oui, mais le tag. Il y a des quartiers qui s'y prêtent mieux que d'autres.
Voilà.
On est d'accord.
Pas le vôtre.
Et vous aimez les circulations douces, Thomas Legrand, vous proposez un supplice doux, voilà. Donc nous nous réconcilions autour de la douceur. Voilà. Et je vous remercie tous les deux, parce que, comme dirait un fils de Bobo, cette émission était super, vous étiez en grande forme, j'ai beaucoup appris pour Paris, et en plus, je sais pour qui voter. Donc, j'invite en tout cas les auditeurs qui veulent connaître son programme à lire le livre de Benoît Dutertre, Les Dents de la Mer, Souffrance d'un piéton de Paris. Mère, bien sûr. Et le livre, et ce récit, est publié aux éditions Fayard. Thomas Legrand, vous êtes l'auteur, avec Laure Vatrin, d'un livre paru dans la collection Que sais-je, Les 100 mots des bobos. Et parmi les mots des bobos, il y a Hidalgo, il y a Villemonde.
Oui.
Donc, voilà.
Plein de mots bobos.
Il y a plein de mots bobos, et vous avez défendu la cause bobo avec une grande élégance et une très grande force de persuasion.
Un petit peu d'ironie aussi.
Un peu d'ironie, mais justement. Parce que le bobo sait être ironique.
Bien sûr, il est parfait.
Et il sait se moquer de lui-même, c'est ça sa perfection. Oui. Voilà, très bien.
Et il n'arrive pas à détester Alain Ficolcroft.
Voilà, c'est, enfin, certains tous, bobos, les meilleurs
bobos.
Non, mais
c'est moi le président des bobos, c'est moi qui décide.
Ah, très bien. Un bobo autoritaire, ça commence à me plaire. En tout cas, merci beaucoup. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les leçons de l'affaire Matzneff ». Mes invités seront Christine Angot et Sabine Procoris. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Dochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Cédric Chatelus, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.